France Info.
On va parler à présent de Mohamed Amra, incarcéré à la prison de Condé-sur-Sarthe, Aurélie.
Oui, le narcotrafiquant est arrivé hier de Roumanie, où il avait été arrêté samedi. Mohamed Amra est mis en examen pour meurtre, tentative de meurtre, évasion, vol, recel de vol, le tout en bande organisée, ainsi que pour association de malfaiteurs. Il a passé sa première nuit à la prison de Condé-sur-Sarthe, en Normandie, une des plus sécurisées du pays. Et le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, assure que ses conditions de détention sont très strictes, avec un régime d'isolement extrêmement difficile.
Il aura le droit à une heure de promenade par jour, seul, sans jamais croiser un autre détenu. Il aura le droit à 2 heures de communication téléphonique écoutée par les services de renseignement. Il aura le droit à 3 visites par semaine, extrêmement contrôlées, avec des fouilles systématiques. C'est donc un régime d'isolement extrêmement difficile qui préfigure le régime de détention que je vais proposer au Parlement la semaine prochaine.
C'est en effet la semaine prochaine que le garde des Sceaux fera des annonces sur la future prison de haute sécurité qui devra regrouper à partir de cet été les 100 plus gros narcotrafiquants du pays.
On a l'impression que Mohamed Amra va servir de test au gouvernement.
En tout cas, je pense que Gérald Darmanin veut insister là-dessus, puisqu'en effet, il y a ce projet de prison de haute sécurité qui rejoint en fait aussi des recommandations qui avaient été faites par la commission d'enquête du Sénat sur le narcotrafic, qui, au-delà du risque d'évasion, notamment dans le cas de Mohamed Amra, disait que un des problèmes aujourd'hui avec le narcotrafic, c'est que vous avez en prison beaucoup de narcotrafiquants qui continuent à opérer.
C'était
le cas de Mohamed Amra, qui continue de
commanditer.
Voilà, qui c'est pas le seul. Qui peuvent continuer à exercer leur trafic, mais qui peuvent aussi commanditer des violences, des assassinats. Donc il y a un problème aussi sur la façon dont on gère l'incarcération. Donc c'est aussi pour ça que ce sujet arrive maintenant. Je pense qu'il y a aussi, alors là si on rentre dans un sujet, une partie très politicienne, une petite bataille entre Gérald Darmanin et Bruno Retailleau. Et donc Gérald Darmanin est très heureux aussi, je pense, de pouvoir s'exprimer sur la partie vraiment justice de ce dossier pour montrer que lui aussi, en étant au ministère de la Justice, il garde la fermeté qu'il avait à l'époque du ministère de l'Intérieur. Donc il y a les deux, il y a à la fois un vrai sujet de fond sur la question de l'incarcération et bien sûr Gérald Darmanin qui a un enjeu d'affichage politique.
Il sert de communication en fait pour le ministre Mohamed Amra.
Là, c'est sûr qu'il y a une opportunité. Alors, c'est pas le bon terme forcément, mais il y a c'est un peu cynique de dire ça. Mais ce qui arrive là, en tout cas, va permettre à Gérald Darmanin de porter son argumentaire et les conditions de détention dans la prison de Condé-sur-Sarthe. De Sarthe va quand même permettre à Darmanin d'expliquer aux Français, vous voyez comment on peut incarcérer un détenu radicalisé, considéré comme très dangereux, et une manière de dire, avec ce genre de cellule, on peut effectivement protéger les Français.
Il va sachant qu'Amran ne s'est pas évadé de prison. Hein.
Il ne s'est pas évadé de prison, mais bon, c'est quelqu'un qui...
Il s'est évadé pendant son transfert vers le tribunal.
Mais tout s'est passé, l'enquête l'a démontré, hein, tout s'est passé depuis sa cellule, il y a eu d'énormes communications vers l'extérieur. C'est quelqu'un qui a organisé ses réseaux et qui a même commandité parfois des meurtres à Marseille depuis sa cellule. Donc voilà, c'est quelqu'un qui sait, d'ailleurs on l'appelle la mouche, hein, qui s'est bougé un peu partout et pas que physiquement. Et donc là, ça va quand même très vite. Hein. Il y a eu cette proposition du ministre de la Justice il y a 3-4 semaines. On se disait un petit peu tous au départ, ça va être quoi ces prisons de haute sécurité, encore un effet d'annonce. En plus, il y a une question budgétaire qui va quand même se poser. Donc aura-t-il vraiment les moyens de ses ambitions? Dans la foulée, il va en Italie pour un peu s'inspirer de ce modèle-là. Hein,
contre la mafia.
Voilà, contre la mafia. Il dit, bon, voilà, ça marche. Et là, il arrive avec une proposition de loi. Et le contexte, effectivement, le contexte Amra, le contexte sécuritaire, va le porter aussi à l'Assemblée nationale, parce que c'est typiquement un sujet sur lequel il peut espérer peut-être avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Je pense qu'au Sénat, il n'y aura pas trop de difficultés puisqu'il est majoritairement à droite. Donc politiquement, effectivement, c'est une séquence qui va l'aider, qui va aussi le servir politiquement par rapport à des raisons un peu de concurrence avec son homologue à Beauvau. Donc Gérald Darmanin, il sait communiquer, ça on n'a pas doute là-dessus, il le fait.
Et
il va pas s'arrêter de le faire.
Le gouvernement joue gros en tout cas sur cette incarcération.
Oui, alors c'est vrai que Darmanin avait l'habitude de dire, quand il était à Beauvau, le problème de la police, c'est la prison.
Et donc là maintenant, il est passé voilà de l'autre côté, il est passé du côté de la justice et de la justice aussi. Donc là, la manière dont on était en prison ou pas. Et en fait, cette fois-ci, il peut voilà donner toute sa mesure. Mais en fait, effectivement, on en fait beaucoup. Sur l'arrestation, les conditions de détention d'Amra, parce qu'en fait, il s'agit aussi de masquer un grand dysfonctionnement. Il s'agit de masquer le fait que la façon justement que vous évoquiez. De son évasion a révélé des graves dysfonctionnements dans le cloisonnement des informations, puisque en réalité le dispositif de qui avait été mis en place pour le transfert d'Amra à ce moment-là ne répondait pas au statut de détenus dangereux, parce qu'ils n'avaient pas les informations tout simplement dans l'administration pénitentiaire. Et donc il y a aussi une grande enquête en ce moment qui est en train de se faire, un grand audit qui est en train de se mettre en place avec beaucoup de difficultés, parce qu'on s'aperçoit qu'effectivement ça ne circule pas, les informations entre la police et l'administration pénitentiaire et même certains magistrats ne circulaient pas, parce qu'ils n'étaient pas tout simplement prévenus à la prison du réel statut du détenu, auquel cas un dispositif aurait été mis en fonction. Donc il en fait beaucoup aussi, parce qu'en réalité ça ne se passe pas très bien.
C'était l'un des arguments lorsqu'il a annoncé ces prisons de haute sécurité. Les syndicats disaient bon ben ça ne va rien régler. Il y a quand même les prisons sont surpeuplées. Il y a des problèmes divers et variés qui font que ça ne va rien changer. Mais enfin, il faut reconnaître que ça apporte vraiment de l'eau au moulin cette arrestation. Il faut évidemment féliciter les services de police qui ont quand même vraiment très bien travaillé, parce que c'est un coup de filet en plus général qui arrive à point nommé pour le ministre. En effet, j'ai compris que cette prison de haute sécurité serait annoncé avant la fin de la semaine, d'ici la fin de la semaine, et que ce ne serait pas une nouvelle prison. On va désigner une prison qui existe déjà, donc pas de problème budgétaire outre mesure.
Il a besoin de 4 millions, Gérald Darmanin, pour mettre au point cette prison, et il dit qu'il les a.
Ça c'est déjà un écueil important, parce que c'était aussi une critique qu'on lui faisait. On n'y aura pas encore construire des choses, on n'a pas les moyens pour ça. Donc en effet, c'est une séquence qui est bon pour lui, qui est bonne pour lui. C'est évidemment du court terme. On verra ce qu'il en est, mais enfin en tout cas c'est une bonne semaine pour Gérald Darmanin en termes de communication, et les policiers l'y aident par ce travail, bien sûr.
Je voudrais quand même vous soumettre la déclaration de l'avocat de Mohamed Amra, qui souhaite que l'isolement de son client respecte sa dignité. Il explique que notre démocratie ne se grandira que si elle traite ceux qu'elle considère comme les pires, à tort ou à raison, le plus dignement possible.
Il fait son travail d'avocat.
Il faut entendre aussi cette parole.
C'est la raison, c'est ce qu'on a entendu de la part aussi de garde des Sceaux qui a égrené les droits. Mais juste un mot par rapport à ça, c'est vrai que les narcotrafiquants aussi entendent ce qui se passe et ce qui se prépare. Et j'entendais hier, moi, je suis pas spécialiste de ça, mais j'entendais hier un avocat qui connaît bien cet écosystème et qui disait qu'en fait ils sont en train de se préparer et en train de réorganiser aussi la manière dont ils fonctionnent, avec une montée en puissance des délégations. Puisque s'ils sont tous isolés et enfermés, eh bien, il y a déjà des délégués qui sont en train de se préparer pour pouvoir justement pallier une éventuelle législation qui enfermerait les narcotrafiquants qui, jusqu'à présent, donc, peuvent effectivement encore agir à partir de leurs cellules.
Juste, est-ce qu'il n'y a pas un décalage entre les annonces sur cette fameuse prison de haute sécurité avec les 100 plus grands narcotrafiquants de France et l'énorme problème de moyens des prisons françaises, la surpopulation carcérale qui bat des records tous les mois?
Le nombre de narcotrafiquants en prison, aujourd'hui Gérald Darmanin donnait le chiffre, il y a 17 000 narcotrafiquants qui dorment aujourd'hui en prison. Donc la prison de haute sécurité qui sera opérationnelle cet été est là pour isoler les 100 plus gros. Mais le garde des Sceaux estime qu'il y a peut-être 600, 700 détenus narcotrafiquants qui sont dangereux. Donc même cette prison de haute sécurité, si elle prend que les parrains, dirons-nous, les plus gros, ça va pas solutionner tout le problème de la gestion des narcotrafiquants qui sont en prison, puisque cette prison de haute sécurité, bon, manifestement, ça va être, il y aura des brouilleurs pour qu'il n'y ait pas possibilité d'avoir des téléphones portables, de l'isolement, et parce que il y a le sujet quand même, il faut éviter de déclencher dans une seule et même prison une espèce de guerre des gangs entre potentiellement des narcotrafiquants qui sont concurrents entre eux à l'extérieur et qui pourraient se retrouver là. Mais on se rend compte que cette prison dont le ministre de l'Intérieur, de la Justice veut faire un emblème de sa lutte contre les narcos, ne va peut-être traiter qu'une infime partie du problème. Ça va être ça aussi. Il y a toujours cet écueil pour les politiques. On en parlait tout à l'heure pour Bruno Retailleau sur les expulsions des OQTF. Là, il va falloir aussi que cette prison de haute sécurité ne cache pas des échecs dans d'autres prisons à contrôler les narcotrafiquants qui sont beaucoup plus nombreux que le nombre de places disponibles dans cette future prison de haute sécurité.
Oui, disons qu'il ne faut pas que ce soit une prison Potemkin, d'une certaine manière, et qu'en effet, il ne faut pas que ça empêche à côté de passer à côté du sujet de la surpopulation carcérale, de l'état des prisons. C'est vrai que le risque aussi, c'est d'avoir un effet de fumée, si vous voulez, un nuage de fumée autour de cette prison-là, et qu'on oublie la complexité du sujet à côté. Donc c'est aussi là qu'il faut être très prudent, et qu'il faudra aussi regarder attentivement sur l'ensemble de la question du narcotrafic, les débats qui vont avoir lieu là très prochainement sur la proposition de loi justement sur le narcotrafic qui vient du Sénat et qui là arrive à l'Assemblée nationale et qui en effet essaie de balayer largement la question des réponses au narcotrafic avec à la fois par exemple travailler sur la question du statut des repentis, travailler sur la question de la justice aussi. Donc il faut une approche globale.
Et de la corruption de l'administration.
Et aussi également.
Parce qu'il ne progresse principalement grâce à ça.
Évidemment, politiquement, là, on touche à un problème qui touche à un très grand nombre de Français. Avant, c'était une affaire de Paris et Marseille. Maintenant, les plus petites villes ont des problèmes d'enlèvement, de coups de feu, de dealers en bas des immeubles. Voilà, ça touche vraiment toute la France, même les villages. On en parle le gouvernement s'en saisit. Les députés rapportent toutes ces questions, tous ces problèmes. Et voilà, c'est vraiment un des problèmes majeurs dans les campagnes françaises.
Certaines autorités considèrent qu'on est quasiment au stade de devenir un narco-État. Donc il faut quand même en plus se rendre compte au stade où on en est par rapport au narcotrafic en France. On n'aurait pas dit ça il y a quelques années. Là, on est arrivé vraiment à un point où ça devient effectivement, Elisabeth le disait, un sujet crucial et pour l'ensemble du pays. Il n'y a plus un département quasiment qui est épargné par les trafics de drogue et donc avec les conséquences, les règlements de compte et parfois aussi des victimes qui sont collatérales de règlements de compte entre différents gangs de trafiquants de drogue.
Oui, voilà. Sur la surpopulation carcérale, je pense qu'effectivement la création de cette nouvelle unité de haute sécurité va potentiellement ou numériquement l'accroître, en tout cas à court terme, puisque ce sera une structure qui va être créée sur une structure existante. Je pense qu'on sera potentiellement, c'est une prison qui aujourd'hui accueille peut-être 300 ou 400 détenus, qui demain va devenir une prison de haute sécurité qui va accueillir 100 détenus.
Il y aura une seule personne par cellule.
Bah voilà, donc ça veut dire qu'on va avoir 300 ou 400 détenus qui vont devoir être déployés sur les autres prisons, donc ça va, en tout cas à court terme, je pense, ne pas du tout régler, même au contraire, accentuer le problème de la surpopulation carcérale.